Au 45e jour de guerre, le détroit d'Ormuz focalise donc toute l'attention avec le blocus décrété par les Américains. Blocus, il faut être précis, des navires partant ou arrivant depuis ou vers les ports iraniens. Une entrave à la circulation qui est dénoncée par bon nombre de pays et Donald Trump qui menace tout navire rapide iranien qui essaiera de forcer le blocus sera abattu, il sera envoyé par le fond. C'est Axel Monnier qui est en direct des États-Unis pour BFM TV. Donc, une fois de plus, après les paroles, Donald Trump passe aux actes.
Oui, effectivement, sauf que c'est difficile d'y voir clair dans la stratégie du président américain, comme souvent d'ailleurs. Alors, il y a certains qui soutiennent ce blocus naval, mais depuis hier, beaucoup de critiques émanent des observateurs, d'experts et même d'élus. En gros, l'idée, c'est de dire que la stratégie qui consiste à bloquer encore un peu plus le détroit pour essayer de le débloquer semble un peu absurde à tout le moins. Absurde et surtout risqué puisqu'on a vu que le prix du Brent dès l'annonce de Donald Trump hier avait repassé la barre des $100. Et puis Donald Trump, lui, on comprend ce qu'il cherche. L'idée, c'est évidemment d'étouffer économiquement un peu plus l'Iran, mais aussi de faire pression sur les alliés de Téhéran, ceux qui bénéficient encore du pétrole iranien. Et puis il y a aussi cette idée toujours chez Donald Trump de montrer les muscles, de se montrer en position de force, notamment avant de possibles reprises de négociations qui, d'après de nombreux médias américains, seraient possibles dans les tout prochains jours. Sauf qu'il y a un risque, évidemment, celui de l'escalade, celui de l'emballement, celui d'une bataille navale, d'autant plus que Donald Trump, vous l'avez dit, s'est montré encore une fois menaçant envers l'Iran. Tout bateau iranien qui s'approcherait du blocus américain serait immédiatement détruit.
Alors, après Axel Monnier à Washington, on va retrouver le général Pellistrandi devant cette carte du détroit d'Ormuz et de la péninsule arabique pour comprendre comment ce blocus peut se mettre en place, général Pellistrandi.
Oui, exactement. Il faut comprendre que, en fait, la problématique pour Donald Trump, c'est d'étouffer donc les entrées et les sorties venant d'Iran. C'est-à-dire que, en particulier, les pétroliers, par exemple, qui ont chargé des hydrocarbures iraniens et qui vont passer vers le détroit pour aller, dire, par exemple, vers l'Inde ou la Chine. Et donc, la problématique, c'est qu'il faut, en quelque sorte, intercepter ces bateaux dans cette partie-là. Pas là, c'est trop dangereux. Pourquoi ? Parce que là, eh bien, on a les côtes iraniennes, et donc le risque, c'est que, eh bien, il y ait des tirs de drones ou de tirs de missiles. Par contre, une fois que les bateaux sont là, on peut éventuellement les intercepter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la marine américaine, elle est déployée quelque part par là, le porte-avions Lincoln, un porte-hélicoptère, des destroyers, des corvettes, donc il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ils peuvent, en quelque sorte, envoyer, par exemple, si on a identifié un pétrolier venant d'un des ports iraniens chargé d'hydrocarbures, on peut l'intercepter assez facilement. Il suffit d'envoyer une équipe, en fait, de commando sur le bateau par un hélicoptère et prendre, en fait, se saisir du bateau. La problématique, elle n'est pas tellement d'ordre militaire. Ça, c'est assez facile à faire. La problématique, c'est bien sûr la justification, en fait, juridique et donc politique sur la saisie de bâtiments qui seraient, en quelque sorte, qui traverseraient donc ce blocus.
Merci, général Pellistrandi.
Alors, on a bien compris, la plupart des bateaux concernés sont des bateaux qui sont chinois ou qui commercent avec la Chine. Et je voudrais me tourner vers vous, Alice Ekman. Comment la Chine va pouvoir accepter, si ce blocus perdure, alors il se met vraiment en place à partir d'aujourd'hui, il va prendre sans doute plusieurs jours pour être efficace, mais comment la Chine va pouvoir accepter tout ça ?
Alors, il faut déjà comprendre que la Chine condamne fortement la position américaine et que la Chine a pris parti. Et ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a pas d'ambiguïté stratégique aujourd'hui dans la position de la Chine. La Chine soutient l'Iran dans sa position, dans ses déclarations diplomatiques, dans le transit de composants électroniques.
Et dans ses achats, hein, parce qu'elle achète
dans ses achats, dans ses votes aux Nations Unies, qui sont aussi coordonnés avec la Russie. C'est un préambule, je pense, important. Et jusqu'à présent, il semblerait que la Chine a bénéficié d'une approche différenciée favorable par rapport à ses bateaux. Est-ce qu'on pourrait encore le maintenir actuellement ? Je ne sais pas, mais pour la Chine, bien sûr, c'est important. Et il faut toujours savoir que la Chine à un parti pris, mais aussi à des éléments, des leviers de pression sur les États-Unis. Moi, ça m'étonnerait pas que la Chine fasse pression sur les États-Unis, toujours
sur
dans
quoi,
une
par
logique.
Exemple
bah, on se rappelle de la rencontre à Busan en Corée le 31 octobre où la Chine, en amont des négociations qui ont mené à une trêve commerciale, avait fait miroiter des contrôles aux exportations de terres rares et de minerais critiques. Bien sûr, on change complètement de sujet, mais ce que je veux dire, c'est que la Chine, pour la Chine, ce qui est important, c'est de faire pression sur les États-Unis et de toujours soutenir l'Iran. Alors, pas aussi directement et explicitement que le fait la Russie, et encore, on pourrait discuter sur la façon à laquelle la Russie soutient l'Iran, mais je voudrais vraiment rappeler ce positionnement chinois, parce que la Chine, est bien sûr, veut la liberté de navigation et est dépendante en tant que puissance importatrice, alors qu'elle importe 90% des exportations mondiales de pétrole iranien, et que l'Iran...
90% du pétrole iranien exporté
part en Chine. Part en Chine. Et pour la Chine, quand on regarde du point de vue chinois, cela représente, l'Iran représente à peu près 13 à 15% de ses importations de pétrole mondial. Donc bien sûr que les chiffres comptent, mais il n'y a pas que les chiffres. Il y a des rapports de force géopolitiques, il y a une formation de coalition qui s'établit, il y a des coordinations actuellement à tout va, puisque demain, Sergueï Lavrov se rendra en Chine.
Hein. Et Donald Trump
il y a trois jours,
le chef de la diplomatie.
Il y a trois jours, Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, s'est rendu où ? En Corée du Nord, dans bien sûr aussi.
Donc les coalitions se renforcent.
Les États-Unis, la Chine s'apprête à recevoir le numéro un vietnamien. Ce que je veux dire, c'est que la Chine a un parti pris, malgré un semblant de neutralité qui nous est destiné à nous, mais en fait, quand on regarde les faits, les positions sont assez claires. Et la Chine voit le soutien à l'Iran important sur le long terme.
Pas pourquoi la Chine pour soutient comme ça l'Iran ?
Alors, avant tout, c'est des raisons. Déjà, bon, bien sûr, la relation politique est importante, la relation énergétique, on en a parlé, oui. La relation économique, puisque la Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran, ça c'est d'un point de vue iranien, mais surtout la raison principale, et ça c'est très important de dire, c'est une raison politique. La Chine s'oppose à ce qu'elle appelle les révolutions de couleur. D'ailleurs, le 8 avril, lors d'un communiqué, Wang Yi, chef de diplomatie chinoise, a dit toutes les révolutions de couleur,
les changements de couleur.
En gros, c'est le langage qui est utilisé par la Chine, mais aussi la Russie, pour parler de changement de régime. Et la Chine considère que les manifestations de janvier, par exemple, étaient illégitimes et fomentées exclusivement par l'Occident. Elle a aidé d'ailleurs l'Iran à contrôler la gestion de ces manifestations et à les recadrer, si je puis dire. Après, on peut rentrer dans des détails techniques.
On peut comprendre pourquoi un régime autoritaire voit d'un mauvais œil ce qui se passe dans un autre régime autoritaire.
Oui, c'est-à-dire que, bien sûr que la Chine a des intérêts énergétiques et économiques à soutenir l'Iran, mais ça vient bien, c'est bien au-delà de ça. Il faut analyser la Chine, les événements aussi, parce que la Chine a très fortement condamné l'enlèvement de Maduro au Venezuela. Elle a très fortement condamné les positions, les actions américaines et israéliennes depuis ces derniers mois. Et surtout, elle considère que c'est une question finalement de presque de solidarité politique. Alors, il n'y a pas d'alliance, parce qu'on disait l'Iran avec ses alliés, il n'y a pas d'alliance technique militaire entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour la Chine de défendre son partenaire, qui n'est pas un allié, l'Iran, en cas d'attaque. Par contre, elle considère qu'elle a intérêt à le soutenir, pas uniquement pour des raisons énergétiques et économiques, mais pour des raisons politiques, conjointement avec la Russie.
Mais pour revenir sur ce blocus, comment concrètement les Américains vont faire en sorte de le faire respecter ? Ils vont bloquer, donc on a bien compris, les ports iraniens. Comment ça se fait concrètement, militairement ?
Ce qu'a annoncé Donald Trump, c'est réutiliser les moyens qu'il avait utilisés sur le Venezuela vis-à-vis en fait des trafiquants de drogue pour justement essayer de faire justement ce blocus au niveau des différents navires et bateaux.
Mais au Venezuela, les Américains ont abattu des navires.
Oui, dans le sens où en fait, c'était, vous voyez, une opération effectivement de police mararitime.
Arraisonner plutôt qu'abattre. Voilà, le terme, c'est celui-là.
C'était une opération finalement de police maritime avec des moyens militaires, avec une surveillance accrue, mais aussi avec une logique différente, non pas en fait de réaction, mais prédictive, c'est-à-dire en fait aller en fait au devant des circuits de trafic en drogue et les analyser, les couler. Là, l'idée, effectivement, vous faites une large surveillance de la navigation sur la zone, vous identifiez les bateaux qui vous semblent suspects et vous les arraisonnez avec des moyens plus ou moins importants en fonction aussi
de la taille. On monte à bord et on prend le commandement, quoi.
Absolument,
oui. Il y a des bateaux fantômes, ces flottes fantômes. Pour contourner justement les sanctions.
Tout comme la France le fait large de nos côtes quand vous avez la flotte fantôme russe. Donc il s'agit en fait de petites unités qui embarquent, qui débarquent, je dirais, à bord des bateaux, en prennent le contrôle pour faire des vérifications.
Par hélicoptère.
Ça peut être par hélicoptère ou par petite vedette.
Non, mais ça, les Américains ont dit, les navires rapides iraniens, ceux qui tenteront de forcer le blocus, on les enverra par le fond. Mais on voit mal les Américains arraisonner un navire chinois, quoi.
C'est un vrai casse-tête diplomatique, justement, de mettre en place, notamment, ce blocus, déjà, dans des zones internationales, avec, justement, le risque, par répercussion, de se mettre à dos toutes les chancelleries du monde.
Ouais. Une chose, quand même, Ulysse Gosset, par rapport à ce qu'on disait sur la Chine. Est-ce que la Chine n'est pas en train d'essayer de regarder Donald Trump se planter dans la région, quoi, en fait. Alors, pardon pour l'expression un peu triviale, mais c'est ça, en le laissant s'enfoncer tout doucement, quoi, en fait.
Moi, je dirais qu'elle observe attentivement ce qui se passe en Iran, en pensant à Taïwan.
Oui.
Et en regardant comment se positionne toute la flotte américaine, ou les flottes américaines, puisqu'on a au moins 3 porte-avions qui sont impliqués dans cette opération. Il y en a 2 qui sont en train d'arriver, d'ailleurs, dans le Golfe Persique et dans le Golfe d'Arabie. Donc, ils observent tout cela parce que, au fond, l'enjeu pour la Chine, c'est évidemment la question énergétique, mais c'est l'enjeu politique et l'enjeu de Taïwan. Premièrement. Deuxièmement, il y a déjà un bras de fer Chine-États-Unis, puisque Trump a menacé Pékin de sanctions supplémentaires, 50% de droits de douane, si la Chine livrait des armes à l'Iran. Or, ce que nous a dit Alice Eklund tout à l'heure, c'est que la Chine livrait des composants électroniques à l'Iran qui lui permettent de fabriquer des drones, des armes, etc. Et donc, on est déjà dans une forme de rivalité, je dirais, géopolitique au niveau mondial. Et évidemment, dans ce contexte-là, la Chine, elle veut, par tous les moyens, montrer qu'elle s'oppose à cette opération de blocus. Et j'ajoute que, quand vous parliez des révolutions de couleurs, ça fait référence à l'Ukraine. Ça fait référence à Tiananmen en Chine, ça fait référence à tous ces mouvements d'opposition qui ont marqué l'histoire de l'Europe, de la Russie et de la Chine. Et ça, effectivement, les Chinois n'en veulent pas. Alors, ce que je voudrais demander à Alice Eklund, qui connaît parfaitement le dossier, c'est, vous dites, la Chine a livré, avant la guerre, des composants électroniques, des moyens d'assurer sa défense. Est-ce qu'elle continue à le faire depuis le début de la guerre?
Bon, alors, il y a des rumeurs que la Chine livrerait des missiles, mais c'est pas du tout confirmé, donc faut faire très attention, c'est des rumeurs, la sécurité américaine, il faut vraiment faire attention, prendre ça avec des pincettes. Les informations sur les composants à usage dual, bon, ça, c'est pas uniquement des composants chinois, elle laisse passer, transiter des composants occidentaux qui sont sous sanction. Donc c'est finalement un peu ce qui se passe pour l'Ukraine aussi. C'est-à-dire qu'elle elle fournit à la Russie indirectement, c'est-à-dire que c'est un point de passage pour des composants sous sanctions et qui servent à l'effort de guerre. Donc ça, c'est quand même un effort, une contribution à l'effort de guerre indirect. Il y a aussi l'exportation de produits chimiques qui servent aussi l'effort de guerre iranien. Il y aurait aussi un partage d'informations en source ouverte avec des positionnements des navires américains, ce qu'on faisait déjà à l'inverse des sociétés occidentales. Mais maintenant, il y a des sociétés chinoises qui le font et qui, ça embête bien sûr les Américains et les Israéliens. Et puis encore, il y a ce positionnement aux Nations Unies, etc. Alors, à voir. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'engage finalement dans une dynamique qui est un peu comparable à la situation en Ukraine. Bien sûr, toute proportion gardée, mais c'est des terrains différents. Mais au début, on a l'impression qu'on est dans une ambiguïté stratégique, que la Chine se positionne comme médiateur, ce qu'elle n'est pas en réalité, parce qu'elle a un positionnement clair de soutien, mais surtout que progressivement, au fur et à mesure que les tensions et la guerre, c'est le feu, on verra, mais en tout cas que les tensions dureront dans la région, la Chine continuera à soutenir indirectement l'Iran, et cela en coordination avec la Russie. Et c'est important, je pense, de prendre en compte cette dimension de coalition. Mmh. C'est pas des coalitions entre alliés, c'est des coalitions entre partenaires, mais réellement, on a quand même l'Iran qui a soutenu l'effort de guerre russe directement, la Corée du Nord qui a soutenu l'effort de guerre russe par l'envoi de soldats et de munitions. On a la Chine qui soutient indirectement l'effort de guerre russe. On a la Russie qui soutient aujourd'hui l'Iran. La Chine qui soutient directement l'Iran. Des coordinations aussi, des échanges avec la Corée du Nord et la Russie. Donc tout ça a un sens au moment où, bien sûr, il y a encore des tensions de transatlantique.
Et le test ultime, ça serait le jour où un bateau chinois serait
arraisonné.
Éventuellement à raisonner ou en tout cas arriverait dans la ligne de mire des Américains en sortant d'un port iranien, alors soit bateau chinois, soit bateau pavillon chinois.
Si, si on veut que le blocus fonctionne, si les Américains veulent que ça fonctionne comme menace, le blocus, c'est forcément des bateaux chinois.
Oui, mais alors là, c'est presque un casus belli.
D'autant que Donald Trump est attendu en Chine.
Le voyage est toujours prévu. Est-ce remettre en question la visite de Trump à Pékin?
Elle a déjà été repoussée.
Oui, elle a déjà été repoussée. Elle pourrait l'être.
Fin mai.
13 ou 15 mai.
Alors, puisqu'on regarde l'Iran et les États-Unis. Mais il y a l'autre partie belligérante, c'est-à-dire Israël et le Liban. C'est l'autre conflit qui est lié, bien évidemment, qui doivent entamer aussi des négociations. Et on va retrouver Naoufel Kerouafi, justement, à Beyrouth pour BFM TV. Est-ce que les Libanais attendent quelque chose de ces négociations? Déjà, est-ce qu'ils y sont favorables?
Pour tout vous dire, c'est une société libanaise qui est divisée avec des points de vue radicalement opposés. D'un côté, vous avez une partie de la population libanaise qui est farouchement opposée à ces négociations directes avec Israël. Pour tout vous dire, tout à l'heure avec Philippine David qui m'accompagne à la caméra, on était conviés dans un quartier, le fief du Hezbollah, la banlieue sud de Beyrouth. On était conviés pour un press tour organisé par le Hezbollah. On a pu discuter avec plusieurs responsables de la milice chiite, mais également des habitants qui habitent dans les environs, et tous nous expliquaient qu'ils étaient contre ces négociations avec Israël, qu'ils considèrent comme étant un état ennemi. Et pour eux, ça ne servait absolument à rien, ces différents pourparlers, parce que Israël va continuer à poursuivre ses frappes dans le pays. Et puis, vous avez une autre partie de la société qui, elle, est pour ces différentes négociations, pour qui c'est essentiel. On discutait hier avec une habitante qui nous disait à quel point elle était fatiguée par ces plus de 5 semaines maintenant de conflit, à quel point elle en avait marre. Et pour elle, la seule solution pour faire taire les armes, c'était de s'asseoir autour d'une table avec Israël et négocier. Des négociations justement qui vont débuter demain du côté de Washington. Pourquoi elles sont inédites? Elles sont très importantes parce qu'il faut savoir que le Liban et Israël sont en état de guerre depuis 1948, donc depuis la création de l'État hébreu, et ce sera l'une des premières fois que les deux pays vont se parler directement. Et tout cela va intervenir dans un contexte où les frappes se poursuivent, notamment dans le sud du pays. Ça a été le cas tout au long de la journée, faisant plusieurs blessés et plusieurs morts.
Kaofi avec Philippine David en direct de la capitale libanaise.
Maya Kadra, on parle de blocus qui démarre aujourd'hui, blocus américain dans le détroit d'Ormuz, et en même temps, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis tient. C'est ce que d'ailleurs a rappelé le Premier ministre pakistanais. Donc ça veut dire que l'idée d'une reprise des négociations n'est pas complètement farfelue.
Elle n'est pas farfelue, elle n'est pas exclue, mais il n'en demeure pas moins que ce cessez-le-feu est extrêmement fragile. D'ailleurs, on parlait de la Chine, ce sont les mots du président chinois quand il s'est entretenu avec le premier ministre pakistanais. Il a dénoncé la fragilité de ce cessez-le-feu, et même il y a des craintes que ce cessez-le-feu soit rompu. Parce qu'en effet, si Donald Trump utilise ce dernier levier de pression économique, qui est le blocus autour du golfe Persique, donc au sud du détroit d'Ormuz, il va dépouiller l'Iran vraiment de sa dernière carte de négociation. Et donc, les négociations en soi, elles ne sont plus intéressantes pour les Américains. D'ailleurs, c'est ce qui a été exprimé par J.D. Vance quand il a quitté Islamabad. Il a dit « Je ne suis pas intéressé par des négociations qui arrivent à un mur ». Voilà, donc là, on voit vraiment les limites de cette diplomatie qui a été, je dirais pas ambitieuse, mais qui a voulu donner une chance à un cessez-le-feu. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun pilier solide pour que ce cessez-le-feu puisse perdurer. Aujourd'hui, Donald Trump dégaine une arme, certes, qui n'a pas encore été utilisée, mais c'est celle du blocus. Elle est encore plus redoutable que toutes les autres qui ont été utilisées.
Combien de temps, en fait? À quel moment les Iraniens seront obligés de plier parce qu'ils ne pourront plus vendre leur pétrole, et c'est quand même la seule chose qui leur reste.
Je vais vous rappeler les fuites qui ont été relayées en premier lieu il y a 2 semaines par Iran International, ensuite par la Wall Street Journal. C'était le président iranien Pezeshkian qui a dit que l'Iran ne peut pas tenir au-delà de 3 semaines économiquement.
Ah bon?
On a dépassé les 2 semaines, il reste 1 semaine. Alors, je dis ça et je l'avance avec beaucoup de précautions, en me basant sur les fuites émanant du président iranien. Mais l'Iran, ils sont acculés. Il faut rappeler aussi, on a parlé des flottes fantômes iraniennes, on a parlé du pétrole iranien, de ce pays qui est exsangue aussi d'un point de vue économique. Il faut rappeler que les sanctions, toutes les sanctions qui existaient à l'encontre de l'Iran avant 2015, avant le JCPOA, ont été automatiquement et intégralement rétablie il n'y a pas très longtemps. Et c'était la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui étaient à la manœuvre et qui étaient à l'initiative de ce grand pas politique symbolique. Donc l'Iran, elle s'est effritée économiquement. Donc là, c'est vraiment le coup de grâce, cet embargo que le président américain est en train d'organiser.
Alors Olivier, vous posez la bonne question. Combien de temps l'Iran peut-il tenir? Mais je pose également la question, combien l'Occident et le monde entier peut-il tenir?
Peut accepter de payer son carburant
aujourd'hui,
très cher.
Aujourd'hui, non mais vous dites, citant des sources iraniennes, que l'Iran a 3 semaines de capacité à tenir. 3 semaines, c'est très long à l'échelle de la planète, à l'échelle de Wall Street, à l'échelle du prix du baril, qui est déjà repassé au-dessus des $100. Oui. Il était redescendu à 90, 98. Là, hier, il était à 104. Maintenant, à 100. Donc, ça va faire du yo-yo comme ça. Et plus le blocus dure, plus le baril du pétrole risque d'augmenter. Je rappelle aussi que les alliés de l'OTAN des États-Unis ont tous quasiment refusé de participer au blocus. Ils sont d'accord pour éventuellement mettre en place une coalition internationale après la fin de la guerre pour sécuriser le passage des bateaux, mais pas tout de suite. Donc on est dans un nouveau bras de fer extrêmement important et délicat. Je suis pas convaincu que ça soit le coup de grâce de la part de Trump. Je pense que c'est plutôt un coup supplémentaire, un coup de pression très fort pour dire aux Iraniens « je suis prêt à aller jusqu'au bout ». Et comme vous, vous dites « nous sommes prêts à tenir jusqu'au bout ». Mais là, quand même, l'Amérique a des moyens très important, effectivement, de menacer l'Iran. À quel moment les Iraniens vont peut-être dire, bah écoutez, finalement, on peut revenir à la table de négociation, ou bien à quel moment les Américains vont faire une nouvelle offre? C'est possible. On a une période là qui est très sensible, qui va durer jusqu'au 21, c'est-à-dire la semaine prochaine, où il y a toujours un cessez-le-feu. Et pendant cette période, les Américains peuvent prendre leur temps, laisser passer avec un délai de grâce quelques bateaux, comme ça, pour montrer que ça commence à fonctionner. Des bateaux avec différents pavillons, des pavillons européens, des pavillons pakistanais, des pavillons indiens et peut-être chinois, en geste de bonne volonté. On verra. Mais il y a une période où les choses vont se mettre en place. On n'est pas dans l'affrontement direct.
Sauf que l'Iran peut très bien jouer la provocation. Et effectivement, à ce moment-là, avec ces fameux navires rapides, et aller provoquer les Américains et provoquer le conflit, du coup.
Oui, même aussi avec des drones, ce qu'ils avaient fait au tout début du conflit, en attaquant et en verrouillant le détroit d'Ormuz. Il faut savoir, selon certaines études, que si les Américains arrivent à bloquer efficacement le détroit, ça coûterait 435 millions de dollars par jour à l'Iran. Oui. Donc vous prenez ça sur un mois, ça fait des milliards et des milliards. Et donc voilà, l'idée c'est effectivement cette asphyxie économique, mais c'est une guerre longue. La guerre économique est beaucoup plus longue que la guerre, on va dire courte, au niveau avec les moyens militaires et les bombardements. Oui.
On va aller retrouver Boris Karlamov. Il est aux Émirats Arabes Unis. Il est à Abu Dhabi parce que ce blocus du détroit d'Ormuz, avec bien évidemment aussi les risques de représailles, ça inquiète tous les pays du Golfe.
Absolument, puisque c'est l'une des conséquences de ce blocus. L'Iran maintient la pression sur les pays du Golfe et avertit qu'aucun port du Golfe ne sera en sécurité si les siens sont menacés. Téhéran qui menace donc les infrastructures portuaires ici dans les pays du Golfe, avec un point d'inquiétude en particulier ici aux Émirats Arabes Unis qui concerne les infrastructures pétrolières du port de Fujairah qui se situe à l'est du pays, un port ultra stratégique qui a déjà était la cible d'attaques iraniennes. Il y avait cette notamment double attaque de drones, c'était le mois dernier, qui avait provoqué de gigantesques incendies. Ce port, il est le seul terminal pétrolier émirati donnant de l'autre côté du détroit d'Ormuz. Les prochaines heures s'annoncent donc cruciales ici aux Émirats Arabes Unis, puisque cela fait concrètement 5 jours qu'il n'y a eu aucun missile, aucun drone iranien qui a été lancé vers ce pays du Golfe, et que les habitants d'Abu Dhabi ont repris un semblant de vie. Il y a de plus en plus de monde, notamment dans les rues. Bref, tous espèrent que cette période d'accalmie va perdurer dans le temps, malgré les menaces de l'Iran. Oui, mais voilà, il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis qui sont sous la pression de l'Iran ce soir. Il y a par exemple le Qatar, justement le Qatar qui appelle à ne pas utiliser les voies maritimes comme des moyens de pression ou encore de marchandage.
Boris Karlamov à Abu Dhabi avec Margot Seff pour BFM TV. On a ce détroit d'Ormuz, général Pellistrandi. Je voudrais que l'on revoie parce qu'on a dit beaucoup de choses sur ce détroit d'Ormuz, en particulier qu'il était partiellement miné. Alors là, d'un coup, on se met à dire on va faire un blocus, on va bloquer les ports, etc. Mais miné ou pas miné, le détroit d'Ormuz?
En fait, on n'en sait rien.
Ah bon, c'est pratique.
voilà, c'est une vraie question.
Personne n'a envie de tester.
Alors,
on voit des parcours sécurisés, oui. Donc qui sont les voies maritimes traditionnelles. Donc,
les Iraniens ont donné une carte maritime avec un grand carré au milieu en disant attention, il y a peut-être des mines. Bon, voilà. Mais on a des doutes là-dessus. Il y a deux destroyers américains qui ont franchi donc ce week-end le détroit. Bon, a priori, il devait pas y avoir de mines particulières sur leur route.
Ou alors ils ont
mais
eu
c'est
la
vrai
chance.
Que c'est une question qui demeure. Donc, on ne sait pas. Mm-hmm. On n'a pas d'informations.
En fait, la menace suffit.
Et oui, la menace suffit parce qu'on sait qu'ils ont en stock entre 5 et 6 000 mines et c'est très simple à mettre en œuvre. Certes, leur marine a été détruite, mais il suffit de 2 ou 3 vedettes pour mettre 2 ou 3 mines.
Sont ces mines comme ça, les mines à marée, voilà, les mines de fond, les mines ventouses et les mines flottantes. Mais les mines ventouses, elles sont déposées par, dans ces cas-là, par moyens humains, les mines ventouses.
Les mines ventouses, elles sont mises, ventouses sur une coque.
Donc les plus dangereuses sont les mines flottantes.
Les mines flottantes, les 3 premières. Et ça coûte pas cher. C'est une technologie qui est très facile à mettre en œuvre. Donc la question, c'est de savoir le simple fait d'évoquer cette possibilité fait que aucun armateur ne peut prendre le risque de faire transiter un bateau sur cette zone-là. Donc ça veut dire que il faudrait à terme pouvoir en quelque sorte déminer. Et là, il faut
des
moyens.
Pour déminer, alors qui pour déminer?
C'est ça. Là, en fait, c'est ça.
Britannique et français, c'est ça.
Deux coalitions en fait différentes comme celles qui existent déjà en mer Rouge. En fait, il y a la coalition américaine Prosperity Guardians et il y a Aspides qui est française européenne, et donc ce sont deux missions différentes mais dans un même objectif, mais qui gardent une certaine forme de distance. Voilà, chaque coalition, elle veut avoir sa propre souveraineté, et ce même scénario peut se reproduire dans le Golfe Persique, mais cette fois-ci avec l'apport et le soutien des pays du Golfe aussi qui sont directement concernés par ce conflit.
Bien, le blocus se met en place. On verra de quelle manière, si c'est un blocus perlé.
Ça peut prendre plusieurs jours,
pour ou un blocus fermé.
Oui, il y a quand même une incertitude qui est liée au fait que les Américains ont dit OK, on va bloquer les ports, mais ils n'ont pas dit comment. Mmh. Et ils n'ont pas dit non plus comment seraient assurés les ports iraniens, bien sûr, et comment serait assurée la sécurité des navires qui pourraient prendre le risque de passer. Qu'est-ce qui leur garantit qu'il ne va pas y avoir un drone iranien ou autre? Est-ce que les Américains sont en capacité de dire « vous pouvez y aller, c'est votre sécurité est assurée ». D'où la question des compagnies d'assurance et des primes qui ne vont pas baisser, même s'il y a un contrôle militaire du détroit et des ports iraniens par les Américains.
Il y a juste le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale qui, aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, a dit qu'il travaillait sur la mise en place d'un couloir d'évacuation des navires qui sont bloqués au niveau du détroit d'Ormuz. Donc, il n'y a pas de blocage total. C'est comme les évacuations humanitaires. Il y a des évacuations de certains navires. Et les pays du Golfe vont également contribuer à apporter de la nourriture pour les membres de l'équipage.
Merci de ces mises au point, de ces précisions.